Parlons-en de Northvolt. On a besoin d'expertise. On a besoin des infos, des conseils de quelqu'un qui s'y connaît pas mal plus que nous. Parce que moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe dans le dossier Northvolt. Je comprends pas. Je suis pas businessman. Loin de là. Et je comprends pas comment ça peut aller si mal ailleurs dans le monde, mais que tout a l'air de bien aller et que le train est toujours sur les rails pour ce qui est du projet ici au Québec.
Oui, je comprends vraiment pas. Puis là, en plus, la nouvelle de Max était très intéressante ce matin. Northvolt qui redonne des blocs d'énergie. Donc, y crois-tu eux-mêmes au Québec s'ils redonnent ces blocs d'énergie-là?
On va en jaser avec Gabriel Giguère, qui est analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Giguère est au bout du fil. Bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là.
Ben, merci pour l'invitation.
On a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi. Tu nous as entendu dans d'entrée de jeu, là, je te lance comme ça, M. Giguère. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça peut aller si mal pour une entreprise, pour une compagnie, un peu partout dans le monde, mais que tout semble bien aller ici pour ce projet-là au Québec. Est-ce que c'est réellement le cas?
Non, je pense que tous les Québécois aujourd'hui, là, quand on regarde les nouvelles, quand on écoute ce matin, là, c'est assez clair qu'il y a de la communication politique, là, parce que concrètement, comme vous l'avez dit, en Northvolt, en Suède, on avait déjà en plus en Europe plutôt, on avait un partenariat avec Volkswagen qui est tombé il y a quelques semaines, protection de la faillite aux États-Unis. Et je veux dire, il n'y a plus rien qui tient dans l'entreprise, là. Je pense qu'il n'y a plus personne qui y croit. Mais on persiste et signe en disant on va attendre, on reste positif, on reste optimiste. Moi, je pense aux Québécois, OK, qui pourraient perdre 700 millions avec l'argent éjecté par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, par le gouvernement du Québec, puis par Investissement Québec, dans cette entreprise-là, puis dans ce projet-là. C'est ça la réalité. C'est qu'avec ce projet-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a vendu ça en grande pompe comme étant, là, Québec va devenir, si je me trompe pas, c'est la batterie verte de l'Amérique du Nord. Bref, là, on y allait vraiment dans des slogans sensationnalistes comme quoi on avait frappé le coup de percute avec une entreprise qui, à toute fin pratique, est-ce qu'on a vraiment eu une étude à savoir si c'était trop risqué de la part d'Investissement Québec? Va falloir qu'on le sache un jour, parce que là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça s'enligne très, très rapidement pour être un flop monumental. Puis l'un des éléments que je trouve dommage ici, c'est quand même de dire que le gouvernement, là, lui, ce qu'il a décidé, c'est qu'il a choisi le gagnant. Là. Le gagnant, c'était Northvolt, c'est assez clair. Les petits Québécois, les petits Canadiens allaient leur donner des milliards de dollars pour être sûr qu'ils allaient faire beaucoup d'argent puis être le gagnant. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est nous, collectivement, qui assumons le risque. Puis le risque est élevé. Donc, je pense que le gouvernement devra apprendre que c'est pas une approche de subvention qui est la bonne.
Fait qu'est-ce que la fin est inévitable et on fait juste repousser l'annonce?
Ben ça, c'est la question à 100 $, là. Tu sais, c'est difficile de dire la fin est inévitable de façon tranchée. J'ai pas lu les livres, tout ça, mais je pense que c'est assez clair qu'on est dans une position très boiteuse. J'y crois pas vraiment personnellement, là. En toute franchise, quand je vois tout ce qui se passe jour après jour, j'avais fait une entrevue sur la question également de fond en comble, puis dans celle-ci, quand on regardait, là, c'est très difficile de penser que Northvolt, là, va sortir la tête de l'eau. Ça pourrait être dans les prochains jours qu'on l'apprend que ça fonctionne pas. Moi, je serais plus surpris que ça fonctionne que ça fonctionne pas, mais encore là, j'ai pas de boule de cristal.
Ouais.
Je pense simplement que les centaines de millions de dollars, c'était mal. C'est une mauvaise décision du gouvernement de choisir de prendre l'argent des contribuables puis de l'envoyer dans une entreprise étrangère qui est en trop grande croissance, là, très certainement. Je pense qu'on n'a pas été capable de se calmer puis de se dire on va faire une expansion de l'entreprise qui est prudente en quelque sorte. Là, on se pitche partout. On nous dit que le Québec, ça va bien, mais vous l'avez dit par ailleurs, les blocs d'énergie, ça a l'air qu'ils vont les redonner au gouvernement, là. Une partie des blocs d'énergie, on voit ça, la moitié, parce que là, ça serait pour la phase 2. Dans le fond, c'est parce qu'il va y avoir à tout le moins un décalage dans le temps de la construction de cette usine-là. Mais au final, ça, c'est bien entendu, si ça arrive, là, je ne serais pas surpris que dans quelques semaines, on apprenne que c'est le 350 mégawatts là, pour l'ensemble de l'usine qui va retourner au gouvernement du Québec.
Puis Gabriel, je veux t'entendre là-dessus, parce que François Legault a mentionné, hey, lorsqu'on est en affaires, il faut prendre des décisions, il faut prendre des risques, puis ça arrive des fois que ça ne fonctionne pas. Mais 700 millions d'argent public, pour moi, c'est un risque majeur qui n'aurait pas dû être pris. Est-ce que je suis dans l'erreur?
Non, t'es exactement dessus. Puis moi, ce que je trouve un peu cocasse, c'est à quelle place le gouvernement, c'est sa job d'être en affaires pour nous.
En effet.
Le gouvernement d'être... Moi, je travaille, vous travaillez. Les auditeurs, ce matin, là, ils s'en vont probablement au travail. Pourquoi on s'en va chercher de leur argent avec les impôts? Hein? On le rappellera jamais assez, mais les Québécois qui sont les plus imposés ici en Amérique du Nord, on va leur chercher de l'argent, on l'envoie à une entreprise. Fait que concrètement, là, c'est tous nous autres qui vont soutenir le risque de savoir est-ce que Northvolt fonctionne ou pas, mais on parle de Northvolt, c'est un logiciel gouvernemental qui existe depuis des décennies. Là. C'est la même chose avec d'autres entreprises, mais pour rester sur Northvolt, après ça, quand ça fonctionnera pas, c'est tous nous collectivement qui se levons le matin et qui allons travailler parce que le gouvernement veut prendre des risques.
Ouais.
Laissons le marché privé choisir quel est le gagnant, quel est le perdant. Puis par marché privé, j'entends vous et moi également. Là.
Ouais.
Quand vous allez à quelque part, c'est par la consommation que les entreprises gagnent à toute fin pratique. Et donc, c'est pas au gouvernement d'expliquer que ça nous prend une chaîne intégrée, on va prendre votre argent, on va l'envoyer là, on va vous mettre des tarifs sur les nouveaux véhicules étrangers. Je pense que c'est très mal... C'est une mauvaise politique industrielle qui est mise de l'avant parce qu'au final, c'est encore une fois, c'est nous qui allons perdre les 700 millions.
Ouais. Gabriel Giguère est analyste en politique publique pour l'Institut économique de Montréal. On parle de Northvolt. Il y a eu la mise à jour économique hier du gouvernement de la CAQ. Selon ton expertise, est-ce que le gouvernement est en contrôle de ses dépenses?
Pas du tout. Mais pas du tout. En mars dernier, donc au dernier budget, ce qu'on apprenait, c'est que le Québec, à toute fin pratique, était dans un déficit historique de 11 milliards de dollars. Du jamais vu dans la province, là. Et ce qu'on apprend dans cette mise à jour économique-là, eh bien, c'est qu'on a conservé le 11 milliards de dollars. Et là, vous avez lu les médias comme tout le monde, vous avez regardé ça et vous vous dites, attendez un peu, là. Il y a à peu près un mois ou deux, là, on entend le cri des sirènes expliquer, là, mon Dieu, c'est l'austérité, qu'est-ce qu'on va faire? Non, non. Un instant, l'austérité, quand on a augmenté les dépenses, quand on regarde les chiffres, hein, le cadre financier de la mise à jour économique, ce qu'on constate, c'est que plutôt que d'avoir réduit les dépenses comme on essaie de nous faire croire, le gouvernement du Québec a augmenté ses dépenses de 3 milliards. Pourquoi il n'y a pas eu d'augmentation du déficit? C'est très clair. Il y a un meilleur développement économique, hein, un meilleur dynamisme, donc un petit peu plus de revenus au niveau des taxes, impôts. Et puis, ils ont augmenté la taxe du gain en capital. Donc, évidemment, on vient effriter, encore une fois, la productivité au Québec puis la compétitivité de l'attractivité au niveau de l'attractivité des entreprises. Fait que ça, c'est un autre dossier qui est absolument déplorable. Mais c'est des choix politiques. Concrètement, le gouvernement du Québec a fait très, très peu pour réduire les dépenses. On les a vus augmenter. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pas un gouvernement qui est en contrôle quand on se dit on va avoir une révision des dépenses, mais on augmente nos dépenses de 3 milliards en quelques mois. Je pense que c'est clair que c'est pas une bonne approche. Puis même au gouvernement Legault, là, quand est arrivé au pouvoir, ce qu'on nous vendait essentiellement, c'est un bon gouvernement de comptable de droite qui sait additionner les chiffres puis qui sait faire balancer la colonne des revenus et la colonne des dépenses. Puis que le gouvernement est arrivé, là, une augmentation de 50 milliards de dollars dans les dépenses, c'est presque 50 % des déficits qui s'accumulent, une dette en mars 2025 qui va atteindre 235 milliards de dollars au Québec. Est-ce qu'on peut mettre un frein à ça? Est-ce que c'est possible que le gouvernement se dise, là, wow, un instant, notre prévision des dépenses, elle va être ambitieuse, et j'espère qu'elle sera ambitieuse. On va en avoir des nouvelles en mars 2025, mais on n'a pas le choix que ça le soit, parce que là, le Québec se dirige à toute fin pratique vers un mur en matière de finances publiques.
Quel justement chemin le gouvernement doit-il prendre pour revenir à l'équilibre budgétaire? Tu sais, c'est quoi les décisions importantes, selon toi, qui devront être prises, puis notamment des décisions courageuses politiquement?
C'est une excellente question. Je pense que toute la question des subventions, des véhicules, des camions, des trottinettes, des ce que vous voulez électriques, il va falloir mettre ça de côté. Ça coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est l'un des éléments qu'il va falloir tasser. Ministère de l'économie, d'arriver avec des subventions massives, ça ne prend pas de subventions. Tu sais, des Northvolt, là, c'est quand même un des plus gros cas, mais des micro-Northvolt, comme on peut dire, là, des 100 millions, des 200 millions, coupez ça.
Ouais.
Coupez ça. Ça va nous permettre de réduire drastiquement. Parce qu'en ce moment, la réalité, c'est que au gouvernement du Québec, quand on regarde le cadre financier, on nous dit on revient à l'équilibre budgétaire dans cette décennie. Mais la vraie problématique, c'est qu'il y a un déficit qui est structurel. Autrement dit, il y a un déficit de 4 milliards de dollars au Québec où on ne sait pas comment on va le résorber, le 4 milliards. On n'a aucune idée. Donc, on a fait, comme je vous ai dit, le gouvernement a décidé de faire un comité des dépenses. Mais il en reste pour moi qu'il y a 4 milliards pour le moment, quand on se parle. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour le couper. Ça va prendre un petit peu plus d'ambition politique, là, parce que c'est sûr que quand on décide de couper un poste budgétaire, il va y avoir du monde dans l'espace public qui vont, des organisations notamment, qui vont ne seront pas contentes, qui vont aller dans les médias, mais il faut l'accepter, puis ça prend du courage politique, parce qu'au final, c'est les Québécois et les Québécoises qui vont en écoper de ce déficit qui s'accumule, parce qu'encore une fois, on paye de l'intérêt sur cette dette-là. La grosse dette de 236 milliards de dollars, c'est pas juste... C'est pas que c'est tellement gros comme chiffre qu'on a l'impression qu'on comprend pas trop ça. C'est quoi l'impact sur nos vies? Mais c'est le fait que ça nous coûte à peu près 10 milliards par année de juste payer l'intérêt. Un peu comme certaines personnes vont payer l'intérêt sur la carte de crédit, le gouvernement va payer 10 milliards. Puis ça, bien, c'est un montant d'argent qu'on peut pas utiliser en santé ou simplement qu'on peut pas réduire en impôts. Fait que ça, il faut bien garder ça en tête.
Hey Gabriel, j'aimerais qu'on jase l'économie au fédéral un peu parce que je veux t'entendre sur l'annonce de congé de TPS au Canada sur plusieurs produits entre le 15 décembre et le 15 février. Est-ce que c'est une décision électorale? Est-ce que c'est une stratégie financière? Est-ce que c'est un mélange des deux?
Là, je veux vraiment que les auditeurs comprennent bien qu'il s'agit d'une stratégie électorale. Là, c'est le parfum est là. C'est très, très clair que c'est électoral. Moi, je pense que Justin Trudeau est dans son bureau puis il se dit là, comment je peux faire? Il y a quand même eu, pardonnez-moi l'anglicisme, le playbook de François Legault en matière de donner des chèques avant une élection. Là, je pense que c'est un peu 250 $, on envoie ça, on réduit aussi la taxe sur la TPS, pardonnez-moi, de 5%. C'est assez particulier, là. Si vous avez regardé les produits qui sont visés, vous avez les Nintendo, vous avez les PlayStation, les consoles, l'alcool. Dans le fond, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de payer un petit peu moins cher pour Noël pour que tout le monde soit content pendant Noël. Puis on va pouvoir se parler au souper en se disant, c'est pas merveilleux qu'au gouvernement fédéral a permis de m'acheter cette dinde-là à 2 piastres de moins. Puis je pense que c'est un peu le principe, là, mais en réalité, c'est très clairement électoraliste. Puis je pense que si on voulait vraiment une vraie coupe de taxes intéressante, ça serait pas temporaire pour 2 mois. Ça serait pas à la carte sur les biscuits puis sur la bière. Là. Ça serait ce que les Québécois ou les Canadiens décident d'acheter. Ça serait permanent. Là. Ouais. On l'a vu avec le gouvernement, c'est clairement pas dans son ADN avec l'augmentation de certaines taxes sur le revenu à travers les 10 dernières années, avec l'augmentation du gain en capital. Donc, c'est clairement électoraliste. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la chose.
Gabriel, je veux t'entendre là-dessus en terminant parce que moi, je sursaute quand je vois un déficit de 40 milliards au fédéral, mais il y a des gens qui me disent, hey, puis des experts, ils me disent, pas grave, c'est juste 1,4% du produit intérieur brut. Les États-Unis, leur déficit est 7%. La France, c'est 6%. J'ai-tu raison, moi, de m'inquiéter de 40 milliards de déficit?
Je pense que tu as totalement raison. C'est un peu comme si tu t'en vas dans la pire classe. Tu dis, regardez, là, vous voyez, lui, là il a pas fait un devoir de la main, là. C'est sûr qu'il coule son année, mais compare-toi au moins bon. Non, faut venir, là. Je pense pas que c'est comme ça. En tout cas, moi, ma mère, elle m'a jamais dit de me comparer au moins bon. Là.
Moi non plus.
Exactement. Donc, soyons sérieux, 40 milliards de dollars, là, c'est quand même beaucoup d'argent, puis c'est pas juste pour une année, là. C'est constamment des déficits qui s'accumulent. Je rappelle quand même que le gouvernement a fait exploser ça de plusieurs centaines de milliards de dollars, la dette, là, au Canada. Ça nous coûte cher en intérêt également. Donc, il faut revenir en nous disant, c'est quoi le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire? Ce matin encore, là, dans les médias, on vous lisait un expert là, qui nous expliquait là, que c'est pas grave en pourcentage de PIB. C'est très grave. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? On accepte ad vitam aeternam des déficits. Le déficit, ça va être. Il va falloir le payer un jour. Là. Un jour, il va falloir le payer parce que la balloune, là, elle a une limite. Là. Donc, quand on va le payer, ça va être les générations futures. Ça va être les largesses d'aujourd'hui sur le dos des générations futures. Puis ça, bien. C'est évident que même si on n'est pas le pire pays du monde, il va falloir quand même s'améliorer, là.
Ouais. Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Gabriel, c'est toujours un plaisir de jaser économie avec toi. C'est certain qu'on va reprendre ça. Vraiment apprécié là, ton expertise ce matin.
Ben, merci à vous.
À bientôt.
Salut, Gabriel.
Bye bye.
Très, très, très solide, Gabriel Giguère, sur tous ces dossiers-là. Là.
Très solide. Puis, tu sais, ce que je retiens, puis, tu sais, je me demandais toujours, parce que je suis pas un expert comme Gabriel, je me disais toujours, j'ai-tu raison de penser ça? Tu sais, moi, un déficit, ça me lève le poil sur les bras. Tu sais, moi, je pense que les gouverneurs doivent toujours travailler pour avoir à tout le moins l'équilibre budgétaire. Puis, c'est exactement ce qu'il nous dit. Tu sais, même si on se compare à d'autres, même si on dit, ah, c'est pas trop pire, c'est pas si pire, ma cote de crédit, tout ça. Faut l'équilibre budgétaire, tu n'as pas le choix. Hey, imagine-toi au nombre d'argent qu'on donne au gouvernement. être en déficit comme ça, puis avoir de l'intérêt sur des dettes qui sont à l'infini, ouais. Là, avec le nombre de milliards qui sont rendus, c'est très perturbant.
Courte pause à Rage Against le matin, il est 8h04. On a une grosse troisième heure pour vous. Entre autres, on parle d'économie, on parle de la mise à jour économique au Québec. On va jaser avec le ministre de l'Économie, Éric Girard. Le maître métal, Didier Sanson, sera avec nous. On connaît plus ou moins le rôle d'un avocat de la défense avant et pendant le procès. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec son client? C'est-tu comme des films où, tu sais, il s'arrache les cheveux puis il dort pas de la nuit parce qu'il essaie de trouver une faille pour sortir son client de la prison? On va en jaser avec le maître métal et on va annoncer le nom de la personne gagnante des billets pour Linkin Park le 6 août prochain. Boulevard.